Personne ne regarde, hein?
Personne ne se rend compte de rien, là, non. OK, donc Matthieu 21, verset 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Évidemment, c'est Jésus ici. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Il lui dit, « Que jamais fruit ne naisse de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Verset 22, « Jésus se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? » Jésus leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? » Mais ils raisonnèrent aussi entre eux, « Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors, ils répondirent à Jésus, nous ne savons, et il leur dit à son tour, moi non plus je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Jésus affirme son autorité. Je vous rappelle un peu pour situer le contexte que ce qu'on vient de voir là suit immédiatement le récit que Matthieu donne de la purification du temple, d'avoir chassé les vendeurs du temple. Et donc, les événements qu'on considère dans notre message après-midi ont besoin d'être compris à la lumière de ce moment charnière, un moment très important dans le ministère de Jésus lorsqu'il va à Jérusalem et qu'il entre avec autorité dans le temple en disant « Vous faites de la maison de mon Père. » C'était pas n'importe quoi qu'il disait là. Il parlait vraiment comme celui qui est le maître du temple. Puis là, c'était plus que juste chasser. C'était vraiment, il prenait autorité en disant « Vous ne ferez pas ça, c'est la maison de mon Père. » Okay? Donc, il faut bien voir ça ici à l'idée lorsqu'on considère même ce qu'on est en train de lire et de considérer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Jésus, avec ce qu'on a vu, déjà avec la purification du temple, mais même ce qu'on vient de lire à l'instant, Jésus a rejeté, jugé la religion corrompue d'Israël. Corrompue beaucoup par amour de l'argent, mais aussi par la vanité. Ce peuple m'honore d'élèves, mais son cœur est éloigné de moi. Ce qui était vrai du temps d'Ésaïe était encore vrai du temps de Jésus. Ils avaient la forme, mais il n'y avait pas la puissance de la vie dans leur religion. La puissance de la vie de Dieu. C'est pour ça que dans les versets 18 à 22 qu'on a lu avec le figuier, on le voit maudire le figuier. C'est fort. C'est un symbole d'Israël qui avait une foi morte, qui ne portait pas de fruits. Pourquoi je dis ça? Parce qu'Ésaïe nous fait le parallèle. Dans Ésaïe 5, dans Ésaïe 28, Israël est comparé à une vigne et ici à un figuier. Le but de Dieu avec Israël, c'était qu'il porte du fruit à sa gloire, comme un arbre fruitier le fait. Et c'est aussi pour ça que dans notre texte, dans les versets 23 à 27, lorsque une délégation comme ça est envoyée auprès de Jésus, Jésus refuse de leur révéler de quelle autorité il fait ces choses. Il faisait ces choses par l'autorité du Père. Hein? C'est dans aussi ce nom-là qui est du fait de la maison de mon Père, une caverne de voleurs. Pourquoi? Parce qu'Israël avait rejeté l'autorité du Père, le Dieu, l'Éternel qui se révèle dans l'Ancien Testament, qui avait annoncé le Messie, qui était maintenant là, en la personne de Jésus-Christ. Le Père avait envoyé le Fils de sa propre autorité, et là, il rejetait cette grâce que Dieu leur faisait. Donc, on va voir, à la lumière de tout ça, que notre texte est d'une actualité surprenante. On va dire, ça, c'est tout lointain. On est loin du temple. Ça fait longtemps. Les figuiers, il n'y en a pas par ici. Mais, comme toujours, la parole est d'actualité. Pourquoi? Parce que, ben, non seulement la société en général, mais aussi la majorité des églises de ceux qui professent Christ, malheureusement, portent très peu de fruits, comme le figuier. Et je crois qu'on a ce verdict de Dieu, où est-ce que la chrétienté dessèche. Mais aussi, un rejet de l'autorité de Jésus-Christ en ce moment. Vous croyez pas que ce qu'on voit, ce n'est que politique, puis qu'on peut juste expliquer ça parce qu'il arrive avec César. Amen. Christ est le chef qui d'abord est rejeté, la tête de l'Église. Et ça caractérise le monde depuis des siècles. Le monde, hein? Ils ont dit, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Mais là, l'Église de Jésus-Christ est en train de remettre en cause celui qui est sa tête pour ne pas lui obéir. C'est ce que Dieu révèle avec ce que nous vivons depuis 2020. Puis comme on le voit dans notre texte, qui date d'environ 2000 ans, Jésus encore aujourd'hui, comme à l'époque, révèle son autorité. Et on a besoin de reconnaître ça dans les deux domaines ici qui sont illustrés dans ce précieux texte qu'on regarde ce soir. Deux domaines où Christ affirme son autorité. D'abord avec le figuier, et ce que Jésus en dit par la suite, on voit qu'il affirme son autorité dans le domaine du vouloir. Et je vous explique pourquoi. Ici, le geste que Jésus pose a une valeur symbolique. Je l'ai expliqué tantôt, le figuier qui représente Israël. Ce figuier qui ne porte pas de fruits et que Dieu ainsi juge. Et vous savez que Dieu a jugé Jérusalem aussi. T'sais, ici, il y avait une symbolique, mais en 70 après Jésus-Christ. Puis on voit, même c'était prophétisé dans Ésaïe, que Dieu a fait un acte étrange et inouï de jugement contre son peuple. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Peratim, il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Et Dieu a fait ça dans le jugement qu'il a porté contre la nation d'Israël. Et c'était un jugement sur la dureté de son cœur qui persistait, qui s'obstinait dans sa rébellion, dans son incrédulité. En fait, le peuple d'Israël avait une volonté obstinée. Voulant établir leur propre justice, ils ont rejeté la justice de Dieu. Romains 1, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Paul priait pour Israël? Frère, ma prière à Dieu et le vœu de mon cœur, c'est qu'il soit sauvé. Mais il continue en disant, mais Israël, hein, il a voulu établir sa propre justice, puis à cause de ça, ils ont rejeté la justice de Christ. C'est pour ça que le jugement est tombé sur eux. Et au verset 21 ici, bon, après Jésus a fait sécher le figuier, verset 20, les disciples, ils étaient étonnés, puis ils disent comment ce figuier est devenu sec en un instant. Et là, Jésus donne son interprétation. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, « Ôte-toi et jette-toi de là dans la mer, cela se ferait. » Christ ici amène la question, Jésus a donné une leçon d'objet avec le figuier. Et ici, la leçon concerne la question de la foi. Pourquoi le figuier était stérile? Pourquoi la nation d'Israël n'a pas porté de fruit? Parce qu'ils n'ont pas ajouté foi à toute la grâce de Dieu qui s'était révélée à eux. Ils n'ont pas cru. D'ailleurs, on va le lire tantôt, mais Ésaïe encore, c'est écrit, « Qui a cru à notre prédication? » Et effectivement, Israël, en majeure partie, n'avait pas cru. Autrement dit, la nation d'Israël n'avait pas porté de fruits, comme elle aurait dû en porter, parce qu'elle n'a pas répondu au ministère, à l'appel de vérité et d'amour de Dieu en Jésus-Christ, Dieu qui venait à eux. Alors Dieu l'a asséché, avec le jugement sur leur incrédulité. Maintenant, je crois que Dieu fait vraiment, on peut faire un parallèle évident avec ce qui peut arriver, à ce qu'on voit arriver en ce moment avec l'Église de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est en train en ce moment d'affirmer son autorité auprès de son Église en brisant sa volonté. Son insistance, sa résistance. Insister. L'Église de Christ a longtemps insisté sur sa volonté, avoir les choses à sa façon et résister à la façon de Dieu. Comment particulièrement? À ne pas vouloir souffrir. Avoir une chrétienté safe. J'aime l'expression de mon frère, safeism. Kevin, tu comprends? Les Anglais, ils inventent des mots, mais c'est tellement commode, là. Safeism. Le sécuritarisme. Ça serait peut-être ce qu'on aurait de plus français pour faire. Pourquoi? Parce qu'on... N'est-ce pas que l'Église de Christ, c'est absolument ce qu'elle a voulu, ce qu'elle a insisté, c'est notre volonté. Dieu, on veut une chrétienté dans une petite boîte, sécure, avec la porte à clé, où est-ce qu'on fait notre petite affaire, puis tout va bien. Dieu a pris le marteau, puis il a tout brisé, cette boîte-là. Puis il a dit, je suis votre sécurité. Et ça, mes amis, je crois qu'il y a une grande vérité là-dessus pour nous en ce moment. C'est-à-dire, pourquoi Dieu a brisé ça? Parce qu'il n'est pas fin? Parce qu'il veut qu'on soit tout insécure pour qu'on ait toute peur? Non, parce qu'il veut qu'on se soumette à son autorité. C'est une question d'autorité. Quand on résiste à la volonté de Dieu, c'est parce qu'on veut se placer nous en autorité. On résiste à sa volonté parce qu'on dit « Non, c'est moi qui vais dire comment ça marche. » Et comment ça peut être différent quand par la foi, on reconnaît qu'il est l'autorité suprême et bienveillante et que ça serait une folie de résister à une si bonne autorité en essayant d'établir la nôtre qui est si instable, si mauvaise, si destructrice. Voyez-vous que c'est une question de foi, c'est une question de volonté, mais qui révèle là où est notre confiance, notre foi. Et ceux qui persistent dans cette résistance, cette obstination, sont jugés par l'assèchement spirituel. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit beaucoup autour de nous. Des endroits qui ont une pancarte en avant du chemin où est-ce que la vie de Christ, par contre, s'en va de plus en plus. Tragédie prophétisée ici comme avec le figuier. Et je pense qu'ici, on est tous d'accord individuellement, mais moi, je pense en tant qu'Église, que c'est pas ce qu'on recherche, c'est pas ce qu'on veut. On veut certainement pas être asséché spirituellement, c'est bien la dernière chose que nous voudrions. Donc, nous avons la volonté de faire ce qui est bien. Nous avons la volonté d'être pour Dieu ce que lui veut qu'on soit. Mais la seule façon d'avoir accès à cela, c'est par la foi. Parce que Dieu, c'est par la foi qu'on peut lui être agréable. La seule façon de lui être agréable, c'est par la foi, en se confiant en lui, en se soumettant à son autorité, en soumettant notre volonté à la sienne. Maintenant, je pense que je vais vous lire quelques versets, juste pour amener ici, parce que on a parlé ce matin dans la fournaise d'épreuves, puis de Christ qui nous rencontre en plein milieu de la fournaise et tout ça, mais je veux juste vous faire remarquer, connaissez tous, ça aussi je pense que c'est un texte qui est revenu, je pense que c'était Pasteur Campbell, psaume 107, là vous n'avez pas obligé de tourner là, mais je veux juste, vous allez voir le pattern dans le psaume 107, vous savez, c'est un psaume qui amène, dans le fond, c'est des histoires, des gens prient sur la mer, ils ont crié à l'Éternel, écoutez bien le pattern, ok, dans le psaume 107, ça dit, d'abord, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses, il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Un autre groupe de personnes plus tard, verset 13, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il délivra de leurs angoisses, il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Un autre groupe de personnes, dans leur détresse, crièrent à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses, ils envoyèrent la parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. Un quatrième groupe dans leur détresse crièrent à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses, et il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Voyez-vous le pattern? Ils crièrent à l'Éternel. C'est exactement ce que Dieu veut faire en ce moment. Dieu veut briser cette volonté de vouloir avoir les choses comme on veut, puis qu'on simplement on s'abandonne à Dieu, on crie à Dieu, puis on dit Dieu que ta volonté se fasse. Au secours, Dieu! Je veux pas ma façon, je veux la tienne. Et ça, comment ça va arriver? Comment on va arriver à invoquer l'Éternel? Lorsque, comme dans Matthieu, on dit, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est là que Dieu veut amener son peuple en ce moment. Il veut régner, affirmer son autorité dans le domaine du vouloir. C'est ma volonté qui est importante, pas la nôtre. Mes amis, si on souffre, so what, comme ils disent en anglais? Je veux dire, est-ce que c'est si important de ne pas souffrir? Parce que Dieu ne nous a pas dit qu'on n'allait pas souffrir. Il nous a promis qu'il allait être avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais il nous a dit, c'est sorti aussi ce matin dans la prière, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je veux dire, on n'a rien à craindre parce que on est du côté vainqueur. La question, c'est est-ce que je suis prêt à me soumettre dans la confiance de la foi à ce Dieu qui veut régner dans le domaine de la volonté, dans ma vie et dans cette Église. Et ça, mes amis, quand Dieu règne, quand sa volonté règne dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, c'est la meilleure chose la plus souhaitable qui puisse nous arriver. Pourtant, savez-vous que c'est la chose à laquelle notre chair s'oppose avec le plus de véhémence? N'est-ce pas? On est tous assis ici sur un banc d'église après-midi, puis on est tous disposés à faire la volonté de Dieu. Mais quand ça vient dans notre cour, quand ça arrive dans la décision qui frotte avec notre volonté, puisque nous on veut faire, oups, là c'est moins drôle. Quand c'est pour l'autre, c'est moins pire, mais quand ça vient dans notre cour, ouh là là! Pourquoi? Écoutez bien ce que je vais dire. Si Satan, notre chair, OK, si il a le contrôle de notre volonté, il va contrôler ce qu'on va faire aussi. N'est-ce pas? Parce qu'avant de faire quelque chose, on a décidé de le faire. Puis là, on va devenir un instrument dans ses mains. Puis on va être sur le pilote automatique pour se détruire, auto-détruire, puis détruire les autres. C'est pour ça que Satan cherche tant à contrôler nos pensées par toutes sortes de mensonges. Pourquoi qu'on entend toutes sortes de mensonges dans le monde depuis la nuit des temps? Parce que c'est comme ça que Satan nous contrôle par nos pensées. Pourquoi que Dieu nous a donné sa parole? Parce que c'est la vérité qui nous affranchit. C'est comme ça qu'on est libéré des mensonges de Satan. Et ça, ça nous aide à comprendre pourquoi il y a tant de mensonges dans le monde. Parce que c'est comme ça que Dieu, que Satan, le Dieu de ce siècle, contrôle le monde. C'est avec les mensonges. Comme je l'ai dit ce matin, avec Shadrach, Meshach et Abednego, les convaincre que, faut juste te prosterner, c'est pas si grand, ça sera pas... Mais non, c'est un mensonge, parce qu'une statue morte qui représente un homme vain et mort dans servant ses péchés ne mérite pas notre adoration. Et Dieu, qui est notre vie, est beaucoup plus précieux que nous, essayer de conserver notre propre vie. Et donc, tout ça, ça nous amène à considérer le deuxième point. Non seulement Jésus affirme son autorité dans le domaine du vouloir, mais aussi dans le domaine du faire. Et ça, on a ça dans les versets 23 à 27. Avec toute la question de cette délégation qui vient. Jésus, c'est, bon, on sait que Jésus a purifié le temple, mais là, on voit Jésus qui enseigne dans le temple. Et on apprend par d'autres passages qu'il enseignait avec autorité. Justement, pas comme les scribes et les pharisiens, il enseignait « Ainsi parle l'Éternel », puis c'était pas une suggestion, c'était pas avec... Non, il enseignait avec autorité. Et toute la question de l'autorité de Jésus-Christ ici est remise en question par cette délégation. De quelle autorité tu fais ça? C'était pas comme, on est donc fin, puis on veut juste savoir, puis... Non, c'était accusé. De quelle autorité tu fais ça, toi, là? T'es pas gêné de venir dans notre temple puis de commencer à enseigner comme ça? C'est ça le ton, c'est ça l'idée. De quelle autorité... Quel droit tu te donnes? C'est ça l'idée, de faire ça, n'est-ce pas? Pourquoi? Ici, il faut comprendre... Pourquoi ces gens-là parlaient comme ça, cette délégation du Sanhédrin? C'est parce que, bon, ils voyaient que Jésus avait lui-même pris l'autorité de purifier le temple. Il leur avait pas demandé la permission. Puis là, maintenant, il retourne en temple, puis il avait lui aussi pris l'initiative, il avait pas demandé la permission pour enseigner avec autorité. Ça les dérangeait, ça. Il les enlevait de leur trône. Ces gens-là avaient le règne dans le domaine spirituel en Israël. Jésus les détrônait complètement. D'ailleurs, c'est pas eux qui allaient là, c'était lui. Mais autrement dit, Jésus affirmait son autorité et sa souveraineté dans le domaine du faire. Il faisait ce qu'il voulait, il n'y avait pas de permission à demander à personne. Tu sais, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Jésus, sa réponse, c'est, pourquoi vous-même vous demandez ce que je fais là? C'est lui qui est plus grand que le temple. Pourquoi qu'il demanderait la permission de faire quelque chose dans le temple? Parce que oui, Jésus n'était pas envoyé par le Sanhédrin. Il n'était pas allé les consulter. Puis il leur demandait aucune permission par rapport à quoi faire ou à ne pas faire. Mais au contraire, il affirme son autorité et il révèle même, eux, leurs propres motifs. Parce que la réponse de Jésus à ce leadership d'Israël là, qui est envoyé ici, cette délégation, sa réponse est très révélatrice. Pourquoi? Parce que il était pas prêt à leur dire de quelle autorité il faisait ces choses. Pensez à ça. Parce qu'il demande, de quelle autorité tu fais ces choses? Puis là, Jésus leur pose la question, vous, ok, ben on va le relire. Qui t'a donné cette autorité? Verset 24. Jésus leur, tu sais, une fois qu'ils ont demandé de qui t'a donné cette autorité, Jésus leur a répondu, verset 24, je vous adresserai aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Pourquoi Jésus répond demain? Qu'est-ce qui se passait ici? Il ne voulait pas leur dire, boum, comme ça, par que. Il aurait pu dire, je fais ça par l'autorité du Père, n'est-ce pas? Ça aurait été simple. Mais pourquoi que Jésus avait vraiment. Jésus avait toujours tout ce contrôle, il avait toujours un but dans tout ce qu'il enseignait. C'est parce qu'il n'était pas prêt, cette délégation, le leadership d'Israël, n'était pas prêt à recevoir sa déclaration. C'est pas que Jésus ne voulait pas le dire, puis il n'aurait pas pu le dire. C'est qu'eux n'étaient pas prêts. C'est pour ça qu'il ramène à Jean-Baptiste. Regardez ce que ça dit ensuite. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Puis là, ils se mettent à raisonner. Ouais, ben là, si on dit du ciel, ils ont la crainte des hommes, là. Pourquoi ils vont dire pourquoi n'avez-vous pas en lui? Puis si on dit des hommes, ben là, la foule, ils ne seront pas contents. OK? Fait qu'ils sont comme pris dans leur propre piège. Mais Jésus les ramène à Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, pour eux, là, en tant que nation, en tant que représentant, c'est la dernière, plus ratée. Il y a eu Malachie. Jean-Baptiste est arrivé annonçant la voix qui crie dans le désert, qui annonce, OK? Jean-Baptiste était la dernière révélation que ces gens-là avaient reçue et qui témoignait de l'identité et de l'autorité de Christ. OK? C'est clair. C'était ça le rôle. Je veux dire, c'est le dernier des prophètes le plus grand, selon les dires même de Jésus. Et ils l'ont rejeté. Et à cause de ça, à cause d'un principe qu'on voit partout dans les Écritures, ils ont rejeté la lumière que Dieu leur a donnée. Dieu n'allait pas leur en donner plus. Pourquoi? Parce que il y avait déjà de quoi croire, mais ils n'ont pas cru. Fait que là, Dieu n'allait pas lui donner plus. Comprenez-vous l'idée? Ils ramènent à Jean-Baptiste parce que c'est ça leur dernière affaire que Dieu leur avait donné à croire, puis ils l'ont pas cru. Fait qu'il n'allait pas leur dire de quelle autorité, parce que Jean-Baptiste lui-même le disait. Il veut dire, allez voir Jean-Baptiste, il va vous dire. Tu sais? Bon. Maintenant. Donc, le problème, ces gens-là étaient dans un aveuglement spirituel volontaire de leur part qui les empêchait de recevoir plus de lumière. Et là, je veux faire une application, un rapprochement bien spécifique à ce que on vit en tant que corps de Christ et plusieurs différentes assemblées locales depuis mars 2020. Je crois qu'il y avait et qu'il y a encore cet aveuglement par rapport au domaine du faire dans nos églises. Et je vous explique ce que je veux dire par là. Ce que le Seigneur révèle, le bobo sur lequel le Seigneur a mis le doigt avec ce qui arrive à nos églises, c'est cette mentalité du faire qui veut détruire. Il y en a qui savent de quoi je parle, mais je vais l'expliquer un peu la mentalité du faire. Tu veux être un bon chrétien? Fais ci, fais ça. Fais pas ci, fais pas ça, tu vas être un bon chrétien. Est-ce qu'on peut faire tout ça et avoir le cœur éloigné de Dieu exactement comme dirait ça? Je fais peuple, bon ordre d'élève, fait toutes les bonnes affaires, mais son peuple est éloigné de moi. Savez-vous ce qui fait de nous un bon chrétien? C'est Jésus-Christ. La vie chrétienne, c'est Jésus-Christ. Les seules œuvres, on l'a vu ce matin, qui plaisent à Dieu, c'est celle de son Fils dans ses enfants. C'est celle de la vie de Christ. C'est ça qui plaît à Dieu, c'est Christ. Notre justice est un vêtement souillé. Je veux dire, même en tant qu'enfant de Dieu, toute la bonne volonté de notre chair ne vaudra jamais rien devant Dieu. Parce que c'est la chair, ce n'est pas de Dieu. Donc, Dieu a révélé ça. Je crois vraiment qu'il s'est servi. Parce que ben, on se rend compte, est-ce que ça tient la route, cette mentalité du faire, puis est-ce que dans des temps de persécution, c'est à ça qu'on peut s'accrocher? Non, mes amis, ça serait bien décourageant, parce qu'on n'est pas à la hauteur. Puis, je veux dire, on ne peut pas s'accrocher à ça, surtout dans des temps difficiles. Non, Dieu nous amène à la foi, à la confiance en lui, en ce que Christ a fait, et non pas ce que nous, on a fait. Et encore là, je pense qu'il y a une ligne de... Je parlais ce matin de ligne de démarcation. Est-ce que ma confiance est dans Dieu, dans ce qu'il révèle être, ou dans j'obéis aux règles ou j'y obéis pas, je fais ou je fais pas? En tant que fin en soi, là, on s'entend que... Je veux dire, vouloir obéir à une règle, c'est pas nécessairement mauvais, mais quand ça devient une fin en soi et que ça nous empêche de nous confier en Dieu pour dire « Là, maintenant, c'est temps d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes », là, ça devient vraiment un point de démarcation majeur. Et c'est une question d'autorité. C'est Dieu qui révèle son autorité dans le domaine du faire. C'est moi qui dis quoi faire et ne pas faire. Et si je vous dis de me faire confiance, si je vous dis de continuer de faire ce qui est bien de faire, comme on essaye de faire du mieux qu'on peut, ben je vais m'occuper du reste. Amen. C'est une question d'autorité, et cette question-là, dans le fond, c'est qui est-ce qui initie? Pour prendre une bonne expression du Québec, c'est qui colle les shots par ici? Non, mais pensez-y. Pourquoi on se rassemble? Comment on fait? Qui décide ça?
C'est Dieu.
C'est pas le pasteur. C'est pas un comité de diacres, un comité de membres. C'est Dieu. Il dit... N'abandonnez pas votre assemblée. Puis il va pas aller dans tout. Il y a tellement de versets pour voir comment on adorait et qu'on fait les choses comme on fait là, parce que Dieu dit que c'est comme ça que ça se fait. C'est une question d'autorité, puis c'est qui décide qu'est-ce qu'on fait. Et on voit ce principe-là, je crois, bien clairement, avec des enfants. Qui a des enfants ici? Vous savez, plus ils sont petits, plus on se rend compte. On a quasiment un pouvoir absolu dictatorial sur ces petites créatures. Peut-être pour ça qu'ils rejambent aussi, là. Mais pensez-y, on lui dit c'est quand qu'ils peuvent manger, c'est quand qu'ils peuvent dormir, c'est quand qu'ils se lavent, comment qu'ils mangent, quelle quantité ils mangent, qui... On leur dit tout, là. Surtout quand ils sont petits, là. Puis ils en ont besoin, là, parce que c'est des petits insensés qui vont se péter le nez sinon, là. Je veux dire, puis là, excusez, je dis pas... C'est des petits ninivites. C'est des petits ninivites qui ne savent pas distinguer leur droit de leur gauche. Ils ont besoin de quelqu'un pour les diriger. Okay? Mais pensez à ça. Un parent, c'est, dans le domaine terrestre, la personne qui a le plus d'autorité. Je veux dire, en tout cas, jusqu'à maintenant, là. J'espère qu'on ne vous fera pas dire c'est quoi le menu. Puis, ben, on s'est fait dire qu'il se met à colère d'aller se coucher. Là. C'est ça pas assez proche, mettons. Mais aussi qu'il nous dit qu'est-ce qui est essentiel ou non. C'est ça, les parents vont dire ça à leurs enfants. Non, ça c'est important, faut vraiment que tu le fasses. Faut que tu te brosses les dents là, avant de te coucher. Là. Sinon, tu vas pas te coucher. Okay? Ça, ça l'est moins. OK, tu n'auras pas de dessert si tu ne manges pas les olives, mais pas à la fin du monde. Comprenez-vous? Il détermine ce qui est essentiel. Mais déjà, vous faites le parallèle avec ce qu'on vit en ce moment. Puis on parle des fois d'infantilisation. Vous voyez le parallèle? Où est-ce que ça nous amène? Mais voici ce que je veux amener. C'est lui qui prend l'initiative de nous dire ce qui est essentiel ou non, basé sur quoi? C'est Dieu qui, de sa propre autorité, dit ça, mon peuple, c'est essentiel. N'abandonnez pas votre assemblée. Accueillez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Ça, c'est essentiel. Vous êtes mon peuple, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. C'est moi qui ai pris l'initiative de ma propre autorité de dire cela. Et ce n'est pas une délégation gouvernementale qui va changer les choses. C'est ça qu'on a ici. Il y a un parallèle, vraiment. Jésus avait cette autorité et il l'affirmait. C'est lui qui disait ces choses avec autorité. Et je crois que c'est lui qui nous dit comment on doit adorer. Puis on l'a vu ce matin, mon frère me disait, partageait ça, il dit, « Enfin, j'attends que mes chers Abednego, ils ont répondu avec candeur au roi qui arrivait de même. » Puis je pense que c'était peut-être l'idée, justement, t'es le gouvernement, mais pour le domaine d'adoration, t'as rien à dire là-dedans, parce qu'ils disent, hein, ils disent, « Roi, sache qu'on va pas faire comme tu dis. » Parce qu'ils reconnaissaient où était la limite. Pis c'est ça. Avec ces gens-là. Bon, maintenant, comment on voit la question de l'autorité en ce moment, à laquelle on se soumet, dans laquelle on se confie, tout ça, pour nous dicter dans le domaine du faire. Tout va être une question de, tu sais, les enfants, eux autres, ils voient leurs parents, c'est comme Dieu, ils décident tout. Ah, ben pour nous, c'est qui qu'on voit comme Dieu puis qui décide tout? Est-ce que c'est Dieu? C'est qui nous dit vraiment qui peut tout nous dire quoi faire? Je crois qu'il y en a un seul qui a cette prérogative, et c'est Dieu lui-même. Les autres sont soumis à Dieu. S'ils ne font pas être soumis à Dieu, ils n'ont pas le droit. Comme avec Shadrach, Meshach et Abednego. Et, vous savez, je pense que on peut tous être d'accord. Le domaine de la volonté puis du faire, c'est vraiment des domaines sensibles parce que ça vient chercher nous, chacun, personnellement. Comme je disais, on peut être bien disposé assis dans une église, mais quand ça devient dans notre cour puis nous autres, c'est là que ça frotte. Mais j'aimerais juste avoir une note d'encouragement là-dessus. Puis ça a même sorti, on voit ça en ce moment, il y a beaucoup de choses qui nous sont de plus en plus imposées. On n'est pas seul. On sait que Dieu est avec nous, mais aussi on a les uns puis les autres. On peut s'encourager là-dedans. Puis on s'encourage à l'amour puis aux bonnes œuvres. Mm-hmm. Satan, l'accusateur des frères, vous encouragez dans votre rébellion. Non, on s'encourage dans notre soumission à Dieu. Puis c'est pas évident de se soumettre à Dieu. Mm-hmm. Il y a de l'opposition, mais on s'encourage à l'amour puis aux bonnes œuvres. Mm-hmm. En ce moment, je veux dire, c'est carrément ça que je crois que dans toute notre imperfection puis notre tu sais, je veux dire, notre nature humaine, là, avec toutes les tares et les défauts, c'est ce qu'on essaie de faire en tant qu'Église pour s'encourager à se soumettre à celui qui a toute autorité. Et comme dans les versets 23 à 27, ici avec la délégation qui va auprès de Jésus, lui demander de quelle autorité tu fais ces choses, le Seigneur leur a donné la lumière, ils ont endurci leur cœur. Ben, si le peuple de Dieu, à qui Dieu a donné sa lumière, endurcit leur cœur, la Bible dit que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et je pense qu'on a un avant-goût de cela que déjà qui est en train de se passer. Maintenant, où je vais amener tout ça cet après-midi? Simplement au verset 27. Alors Jésus ici qui dit, alors il répondit à Jésus, nous ne savons, autrement dit, il ne voulait pas dire c'était quoi, puis il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas de quelle autorité je fais ces choses. Donc eux, OK, ils ne voulaient pas dire, répondre à sa question, puis Jésus ne leur dit pas. Maintenant, réfléchissez là-dessus. Jésus ne leur a pas donné de réponse à cause de leur incrédulité puis la dureté de leur cœur. Ils ont manqué toute qu'une bénédiction. Parce que Jésus voulait se révéler à eux. Jésus ne voulait pas les prendre dans un piège. Il ne voulait pas les rendre misérables. Il voulait les bénir en leur donnant le privilège de se soumettre à son autorité. Pensez à ça une minute. Dans notre nature pécheresse, on voit toute autorité, on a tendance à les voir. Hein? La nature pécheresse regène. Mais ici, il y avait le bon berger qui était face à eux, le Messie, le seul être qui est venu sur cette terre étant toujours et que bon. Et comprenez bien, le Jésus se serait réjoui de leur révéler le Père. En fait, ils venaient pour ça. Mais ils n'ont pas voulu. Écoutez à ce sujet-là, Jean chapitre 12. Je vais vous lire quelques versets. Jésus leur dit, ici dans Jean chapitre 12, il parle aussi au leadership d'Israël. La lumière est encore un peu, pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière et que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru en notre prédication? À qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvaient-ils croire parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, ils ont endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils ne comprennent du cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Jésus qui parle encore là au leadership d'Israël. Et on voit que, comme autant dans notre texte dans Matthieu que dans ce que je viens de lire dans Jean, que dans Ésaïe, quand il cite, parce que c'est une citation d'Ésaïe 6 ici, qui a cru? Qui a cru? Et ne pas croire, c'est devenu leur propre jugement. Et savez-vous quoi? C'est le jugement de notre société en ce moment. C'est le jugement de la chrétienté en ce moment. Qui a cru? Ésaïe disait ça il y a des milliers d'années. C'est ce qui est arrivé ici avec Jésus. Puis en ce moment, qu'est-ce qui nous détruit en ce moment? C'est qu'on ne croit pas à ce que Dieu nous a révélé sur lui-même. En ce moment, nous vivons comme société le jugement de Romains 1. On est livré à notre propre... Dieu, tu sais, Dieu nous a livré à nos sens réprouvés comme société. Le peuple de Dieu qui professe son nom, malheureusement, beaucoup qui le professent, ne croient pas et à cause de ça est jugé, desséché comme le figuier. Mais écoutez ce que ça dit dans les versets que je n'ai pas encore lus dans Jean 12, à partir du verset 42. « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu. » Dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Et ça ramène la situation aux choses invisibles, celles du cœur. Personne ne s'en rendait compte qu'ils avaient fait profession, mais ils ne voulaient pas croire parce que dans leur cœur, il y avait cette crainte des hommes qui était plus grande que leur désir de glorifier Dieu. Et je crois que c'est précisément là que se joue le profilage ici entre l'Église authentique de Christ versus, mes amis, on a un phénomène de plus en plus évident, et je vais employer l'expression « Église d'État ». On arrive à ça de plus en plus, là. Une Église d'État. Et vous savez, une Église d'État, c'est des gens sincères qui veulent bien faire, mais le problème, c'est que leur autorité n'est pas la bonne. Christ a affirmé son autorité, et il le fait encore, mais une église d'État a changé d'allégeance. Et c'est dramatique, c'est destructeur. On s'en rappelle dans l'histoire de ça. Parler à des Roumains, à des Russes, à des Allemands. Les églises d'État, ils étaient approuvés en Chine. Vous savez qu'il y a des églises, vous allez en Chine, il y a une église. Ils sont pour la liberté en Chine. Ils justifient les tyrans. Parce qu'ils sont soumis à leur autorité. Puis ceux qui sont présentés comme les gros méchants, ceux que les rebelles, c'est parce qu'ils veulent se soumettre à celui qui a l'autorité suprême. Pensez à ça. Wow! Autrement dit, pour ne pas détonner, pour ne pas être ridiculisé, pour être accepté socialement, pour être un bon témoignage, trop de chrétiens rejettent l'autorité de celui qui a autorité sur, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que Dieu nous en protège. Parce que ceux qui nous ont précédés depuis des centaines, des milliers d'années, puis on a vu ce matin avec Shadrach et Meshach et Abednego devant le plus grand roi de la terre à l'époque, n'ont pas fléchi genoux. Et c'est vraiment ça la question, une question d'autorité. Jésus l'a affirmé, il est sans équivoque, et pour nous, notre allégeance doit toujours rester la même. Et ne laissez pas Satan vous faire croire que vous êtes rebelle quand vous faites ça. C'est le vieux mensonge de Satan. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens, malheureusement, se font tromper. On ne veut pas être rebelle, on veut être un bon témoin. Puis je comprends son sincère, mais c'est une tromperie. Parce qu'on n'est pas rebelle, on veut juste se soumettre à l'autorité suprême. Et on doit s'aimer, on doit être patient, on doit gagner nos frères et sœurs qui ne voient pas ça exactement comme ça encore. Puis je pense que ce n'est pas une bonne idée de commencer à y aller avec des coups de poing et des gants de boxe. Il faut leur montrer, regardez... Je ne peux faire autrement que de me soumettre à celui qui est l'autorité. Est-ce qu'on le voit dans les Écritures ensemble ici? Que faut... C'est ça l'idée. Celui qui est sage gagne les cœurs. Celui qui est insensé peut bien gagner un argument, mais il a perdu le cœur. C'est vrai. Donc, vous savez, on dit des fois, rien change, plus ça change, plus c'est pareil. Mais ben, les circonstances sont différentes. Là. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de figuier par ici, puis j'ai pas vu grand monde du Sanhédrin dernièrement. Mais ça, c'est juste circonstanciel. Il y a des choses qui restent toujours les mêmes. La foi, l'humilité, la soumission, dans le domaine du vouloir et du faire. Je vous laisse avec un passage où est-ce que j'ai référé à ça, C'est ma conclusion. Ainsi, mes frères bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut. Agissez selon ce grand salut. Agissez à la lumière de cette délivrance que Dieu a opérée dans votre vie, cette victoire que vous avez. Agissez selon ça avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Seigneur, comme on te remercie de ce que ta parole est la vérité. Ah, sanctifie-nous par ta vérité, qu'on fasse un grand cas de toi. Ah, que tu sois à nos yeux et pour nous ici, cette Église, individuellement, mais aussi collectivement, que tu sois notre tout, qu'on soit saisi de ta présence, de ta personne. Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais au milieu de nous autres. Mais tu ne nous as pas placés, choisis pour un temps comme celui-ci pour rien. Oui, Seigneur, tu veux qu'on soit ces flambeaux qui brillent, qui portent la parole de vie. On ne veut pas juste être dans un milieu chrétien fermé, hermétique. On veut porter cette parole de vie. Autant à tes enfants qui peuvent être dans la confusion, dans la tromperie, que ceux qui ne te connaissent pas encore, qui sont dans la perdition, dans la mort. Ah, Seigneur, on se réunit ensemble comme ça parce qu'on veut, oui, s'encourager, s'exciter à l'amour aux bonnes œuvres. On en a besoin. On a besoin d'être nourri, de se nourrir, mais Seigneur, parce qu'on veut aussi porter cette parole de vie. Alors, dirige nos pas cette semaine de nous placer devant nous des gens à qui on va pouvoir porter cette parole de vie. Merci Seigneur que c'est en toi qu'est la vie. Tu es le prince de la vie. Merci que tu as toute autorité sur la terre comme au ciel. Et Seigneur, notre désir, c'est de nous soumettre à toi. Tu vois les luttes de notre chair, tu vois comment notre nature est rebelle. Mais Seigneur, on vient à toi humblement. Merci de nous briser. Merci d'avoir pris la dernière année et demie pour briser notre autosuffisance, notre sagesse propre à nous-mêmes. Toutes ces affaires-là pas bonnes de nos vies et de nos églises, parce que tu veux rebâtir. Tu veux avoir la prééminence. Tu veux ta propre gloire. Merci pour ça, Seigneur. Oui, on te rend grâce du fond du cœur parce qu'on y voit ta bonté qui dure à jamais, qui se renouvelle chaque matin. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen.